Bonjour Yves. Mais non. Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition en essayant de le faire le plus vite possible. Pour vous préciser que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis un certain temps déjà. Je n'étais même pas né, c'est vous dire. Je rappellerai, ça je ne le fais pas à chaque fois, que bien évidemment notre générique est une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards sorti en 1962, une petite merveille immortellement intitulée Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn et George Piper dans les rôles principaux. Et Henry Mancini, un de nos favoris. Henry, tu nous manques, mais tu es là quand même, à la baguette pour ce Moon River, standard de jazz incontesté depuis. Et c'est bienvenu de parler de jazz, puisque nous allons consacrer notre émission de ce jour à un compositeur de musique de film qui est avant tout, je pense que si on lui demandait son avis, avant tout un grand jazzman, en l'espèce Claude Bolling, né le 10 avril 1930 à Cannes. C'est qui ça, Claude Bolling ? Eh bien, Claude Bolling, c'est ça. We'll be right back. avez forcément reconnu, même si peut-être vous ne vous souvenez pas du film parce que vous étiez trop jeune pour ne pas l'avoir vu. Eh bien, c'est une sorte de medley des bandes originales composées par Claude Bowling, notre héros, Bowling c'est mieux, notre héros de ce jour, de Borsalino et de Borsalino & Co., deux films réalisés par Jacques Deray, respectivement en 1970 pour le premier opus et en 1974 pour le second opus. Alors, l'intérêt principal de Borsalino en 1970, eh bien, c'était la rencontre entre Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, certainement les deux monstres sacrés les plus connus du cinéma français de l'époque et qui peut-être avaient déjà tourné avant. Ensemble, j'avoue, je ne m'en souviens plus, mais qui en l'espèce avaient les rôles vedettes d'une histoire qui se situait, mais ça aussi ceux qui l'ont vu le savent, quelque part à Marseille dans les années 30 avec des guerres, des gangs. À Marseille, dans les années 30. Ah, bon. Nous plaisantons, Borsalino, vous le savez sans doute aussi, eh bien, c'est un chapeau. Et c'est le chapeau que portaient les deux héros que j'ai là sur une magnifique photo. Cigare à la bouche et l'air désinvolte pour Belmondo et la mine un peu crispée qu'on lui connaît si bien pour Alain Delon dans une magnifique voiture des années 30, puisque dans les années 30, on faisait des magnifiques voitures. C'est pas comme maintenant, mon pauvre monsieur. En l'espèce, eh bien, Borsalino réunissait donc Belmondo, Delon, mais aussi une sacrée palette à leur côté, puisqu'on voyait Michel Bouquet, Catherine Rouvel, alors Françoise Christophe, peut-être des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais des grands seconds rôles solides du cinéma français des années 70, et il y avait même Mireille Darc dans le rôle d'une prostituée. Mais enfin, apparemment, c'était un petit rôle pour un film qui connut un triomphe et qui était co-signé, excusez du peu, pour son scénario par Jean-Claude Carrière, Claude Sauté et Janco. Alors Janco, tout le monde a oublié qui c'est aussi. Et même moi, j'ai oublié qui c'était. Et Jacques Deray, bref, pour un film qui fut une super production à la française pour l'époque, mais qui fut aussi un très très grand succès commercial. Et puis une musique que, évidemment, personne n'a oublié et qui donna lieu, donc, je l'ai dit, à une suite avec uniquement Alain Delon dans la suite, puisque Jean-Paul Belmondo était mort dans le premier épisode et qu'on n'est pas dans Game of Thrones. Claude Bowling, né le 10 avril 1930 et qui a largement commencé comme jazzman avant de venir au cinéma quelque part en 1957, je dirais, mais son premier grand film, d'une certaine manière, c'est Borsalino, en 1970. Il fut, je dirais, influencé par les grands maîtres du jazz de la première moitié du XXe siècle, comme Fats Waller, Art Tatum, mais aussi et surtout Duke Ellington, qui eut le privilège de connaître personnellement. Claude Bowling, qui fonda aussi son propre orchestre en 1956, le Claude Bowling Big Bang, qui en 2006 fêtait, et ben oui, vous l'avez deviné, ses 50 ans, ce qui est bien rare, même pour le jazz, une formation aussi longue. J'imagine qu'en 50 ans, c'était pas forcément les mêmes qu'au début, mais il y avait quand même Claude Bowling, bon pied, bon oeil, à ma connaissance, toujours parmi nous, d'après ma petite fiche, et qui, d'après ma petite fiche, continuerait même à tourner. Là, j'ai un peu de doute quand même, mais ma foi, peut-être, pourquoi pas, la musique et la passion, regardez Michel Legrand. Ça maintient en forme, c'est pas comme d'autres choses. Voilà, on va passer à un second extrait d'une bande originale de film, évidemment, puisque le but de 24 notes secondes, je l'ai rappelé en début d'émission quand même, c'est ça, même si peut-être d'autres auraient préféré entendre les compositions jazzy de Claude Bowling, une autre émission peut-être sur Divergence FM. Et on va écouter donc un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1973 avec à nouveau Jean-Paul Belmondo. Ça s'appelle Le Magnifique, c'est signé Philippe de Broca et j'étais trop bavard. Donc j'en parle après, on l'écoute d'abord, 24 notes, seconde. Thank you. caramba, encore raté. Non, c'est pas le même film, c'est un extrait de la bande originale du Magnifique, un film de Philippe de Broca tourné en 1973 avec Jean-Paul Belmondo, tel qu'en lui-même ou presque dans le rôle principal et même dans les rôles principaux, puisqu'en fait, le Magnifique était basé sur un procédé cinématographique déjà largement utilisé, celui d'un modeste romancier de romans d'espionnage qui commence à vivre les romans qu'il écrit. On l'a déjà vu notamment, peut-être pas vous, mais moi si. Dans La vie secrète de Walter Mitty, dont on a fait récemment d'ailleurs un remake plutôt bienvenu, où on voyait là encore quelqu'un qui vivait à l'écran en direct ses rêves. Et bien c'était tout le procédé utilisé par Philippe de Broca, certainement l'un des plus fins et des plus regrettés maîtres de la comédie à la française, du temps où il y avait vraiment des comédies à la française qui n'étaient pas conçues pour passer directement sur TF1 à 20h55, mais en fait c'est 21h avec les pubs. À l'époque on faisait des vrais films pour ça, mais j'ai peut-être arrêté aussi le côté vieux con, je sais. Et donc, aux côtés de Jean-Paul Belmondo, il y avait la délicieuse Jacqueline Bisset, et qui jouait tout à la fois Christine, l'étudiante, et oui, étudiante Jacqueline Bisset, dont François Merlin était amoureux, et qui jouait aussi Tatiana, la sublime espionne dont Bob Sinclair, le plus célèbre espion, le plus célèbre agent secret du monde, je bafouille parce que je cite ce qui aurait dû être le titre original du film, le plus célèbre agent secret du monde, mais on sait ce que c'est le marketing au cinéma, c'est trop long à dire, donc bref, on a fait le Magnifique. Donc voilà, ces deux-là se retrouvaient dans la vraie vie, dans la fausse vie, et à nouveau dans la vraie vie. Ça finissait bien, bien sûr. Nous étions dans une comédie à la française. Déjà, c'était comme ça à l'époque. Le scénario, alors peut-être que le nom de François Merlin rings a bell pour vous. Le scénario était signé Francis Weber, mais apparemment, pour des raisons obscurément inconnues de moi, le dit Francis Weber refusa que son nom figurât, je crois, au générique. Et donc, le film sorti sans générique, ce qui n'empêchait pas d'être, d'être un succès absolument monstrueux à l'aune des succès que faisait Belmondo, et Delon dans un autre genre, à cette époque. Succès qui d'ailleurs permit, comme quoi des fois, les petits ruisseaux, les rivières, etc., qui permit à la société Cirito-Film, que le dit Bebel avait créé exprès pour le Magnifique, ça lui permit de financer l'année suivante un film beaucoup plus difficile et à vrai dire beaucoup plus intéressant, le Stavisky d'Alain Resnais, dans lequel Belmondo tenait le rôle principal. Et autant vous dire que le dit Stavisky ne fit pas 726 665 entrées en première semaine à Paris comme le Magnifique. Voilà. Quant à Claude Bolling, eh bien, notre héros de ce jour, ne l'oublions pas, il poursuivit ensuite une modeste carrière cinématographique, en tout cas si j'en juge par ma petite fiche, qui peut-être ne recense pas tous les films auxquels il a collaboré. Alors peut-être qu'on pourrait extraire, non pas en écoutant des extraits, mais juste pour le mentionner, le Trois hommes à abattre de Jacques Deray, tourné en 1981, qui dans mon souvenir se passait quelque part aux États-Unis et était un polar plutôt bienvenu. Et par contre, on va écouter, et c'est heureux, un extrait d'un autre film signé Jacques Deray, tourné celui-là en 1985. Ça s'appelle « On ne meurt que deux fois ». Beau titre, il faut bien le reconnaître. Le haut scénario, Jacques Deray et Michel Audiard lui-même, autant dire que nous sommes entre maîtres, d'après un roman de Robin Cook. Je vous en dirai quelques mots de plus, mais j'ai été trop bavard. On écoute un extrait de cette bande originale dans 24 notes, secondes. Thank you. bien belle partition, ma foi, pour la bande originale d'On ne meurt que deux fois, un film de Jacques Deray tourné en 1985 et qui fut, j'ai relu, ma petite fiche pendant que vous écoutiez, moi aussi à vrai dire, qui fut le dernier film scénarisé par Michel Audiard, tout simplement, en 1985. Il nous quitta peu après, et ma foi, peut-être que ce n'est pas son œuvre maîtresse, comme l'on dirait, mais c'est une adaptation bien poisseuse, bien sinistre, bienvenue, avec des interprètes à l'aune de ce climat, puisque dans les rôles principaux, on retrouvait Michel Serrault, mais le Michel Serrault grave, comme on l'a vu quelques fois dans le rôle de Robert Staniland, ce nom, et opposé, si l'on veut dire, à Charlotte Rampling, alias Barbara Shalon Spark. Vous ai-je jamais dit que j'aurais voulu être Charlotte Rampling de la même manière que Woody Allen voulait être les collants d'Ursula Andress? Mais moi, je voulais être Charlotte Rampling. Enfin, bref, on en reparlera un autre jour. En tout cas, c'était Charlotte Rampling qui jouait le rôle principal devant Michel Serrault. Ma foi, ces deux-là, sinon, s'entendaient à merveille, du moins formaient un duo qu'on n'oublie pas, avec à leur côté quelques solides, à l'époque, second rôle, comme Gérard Darmon ou Jean-Pierre Bacri, et même Jean-Paul Roussillon, mais lui aussi, vous l'avez oublié. Quelle tristesse, tout cela. Donc, voilà, un opus signé de Jacques Deray, auquel Claude Bolling a apporté sa participation. Ces deux-là avaient collaboré, vous l'avez compris. Sur les deux Borsalino, ils se retrouvèrent aussi un peu plus tard sur un film politique où l'on voyait Yves Montand, qui s'appelait Ned Chaïef est de retour. Il s'appelle toujours comme ça. Il a toujours été tourné en 1991, Forever. Mais on va maintenant écouter une autre facette du talent de Claude Bolling pour une autre musique que vous n'avez forcément pas pu oublier. En l'espèce, celle d'une série télévisée de 36 épisodes de 55 minutes. Alors 36 épisodes, ça paraît ridicule maintenant pour des séries télévisées. Une série télévisée qui fut diffusée pour la première fois sur les écrans français entre 1974 et 1983. Ça m'étonne un peu, mais... Ah non, il y a eu 6 saisons de 36 épisodes, ma foi. Si ma petite fiche le dit, c'est donc que c'est vrai. Une série qui se passait quelque part du temps de Monsieur Clémenceau. On y voyait Valentin, on y voyait Pujol, on y voyait Terrasson. Non, vraiment, ça ne vous dit rien. Les Brigades du Tigre, voilà, c'est de cela qu'il s'agissait. Une série télévisée française, mesdames et messieurs, située quelque part donc entre 1919 et 1930 pour les deux dernières saisons et avant la Première Guerre mondiale pour les quatre premières saisons, et qui voyait donc les susdits Valentin, Pujol et Terrasson utiliser les méthodes modernes de la police. C'était un des arguments pour traquer les méchants. Toujours les méchants, bien sûr. Les interprètes principaux, eh bien, c'était Jean-Claude Bouillon, Pierre Maguelon, Jean-Paul Tribou, des acteurs un peu oubliés, mais qui eurent leur heure de gloire à cette occasion-là, ma foi, je m'en souviens. Hélas, il n'y avait pas autant de chaînes, de séries, de films et tout ce genre de choses à l'époque, et ma foi, surtout, la série était fort bien faite, créée par Claude Desailly, et elle bénéficiait d'une musique, donc, de Claude Bolling, dont on va écouter un extrait, et forcément, vous l'avez déjà entendu quelque part avant de l'écouter dans 24 notes secondes. J'ai failli me laisser avoir par la fausse fin, un extrait de la bande originale des Brigades du Tigre. Alors ça fait un petit côté Borsalino qui nous permet de boucler la boucle, musique de Claude Bouling. Alors il y avait aussi, et quand je l'écoute irrésistiblement, je l'entends aussi, une chanson interprétée par Philippe Clem, et tous ces gens-là sont morts, quelle tristesse vraiment. Monsieur Clémenceau, etc., etc. Non, non, rassurez-vous, je ne vais pas chanter, je vais juste vous dire qu'on tenta, comme les Américains le font, un film à partir de la série télévisée, un film tourné en 2006, Les Brigades du Tigre, donc ça s'appelait, la musique n'était pas de Claude Bouling, avec Clovis Cornillac, Diane Kruger, Olivier Gourmet, Édouard Baird, Thierry Frémont, Jacques Gamblin, Léa Drucker, ah, tout ça c'est des gens qui sont chers, c'est un film qui était cher, mais il était pourri quand même. Voilà, donc on va en rester là peut-être, on va saluer bien courtoisement et bien affectueusement Claude Bouling, et pour une fois, on va s'écouter à nouveau notre merveilleux générique de 24 notes seconde, Henry Mancini, et surtout, Audrey Forever, au revoir, see you.